Les infos à Washington.
Jean-Roger Biron, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. La Compagnie nationale libyenne de pétrole, la NOC, reconnue par la communauté internationale, a annoncé aujourd'hui avoir repris la gestion des terminaux pétroliers dans l'est du pays, ainsi que les exportations. Le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est libyen, a rendu les terminaux à la NOC basée à Tripoli 2 semaines après sa décision controversée de les remettre aux autorités parallèle de l'Est qui avait provoqué la suspension des exportations selon la compagnie. Un soldat français grièvement blessé dans le crash d'un hélicoptère militaire en Côte d'Ivoire a été évacué vers la France selon des sources militaires françaises sur place. Un autre soldat a été tué dans l'accident qui s'est produit mardi aux environs de 17h GMT à une dizaine de kilomètres de l'aéroport d'Abidjan où se trouve une importante base militaire française. L'hélicoptère de type Gazelle de l'armée en terre française, de terre française s'est écrasé sur une cité en construction dans le village de Modès sans faire de victimes au sol. Il n'y avait que 2 occupants, pilote et copilote, dans l'appareil. L'élection présidentielle au Cameroun a été fixée au 7 octobre selon un décret du président Paul Biya. Entre les troubles des régions anglophones et la menace de Boko Haram dans l'extrême nord, cette élection se tiendra dans un contexte délicat. Ce décret a suscité beaucoup de réactions. À Douala, Claire Morin-Gibou.
À 85 ans et plus de 35 ans de pouvoir, le président Paul Biya n'a pas annoncé s'il serait candidat à un 7e mandat, même si ses partisans le présentent comme leur candidat naturel. Le scrutin aura lieu dans un contexte difficile avec l'insurrection des séparatistes anglophones et les incursions sanglantes de Boko Haram dans l'extrême nord du pays. Le principal parti d'opposition, le Social Democratic Front, a déjà désigné son candidat, Joshua Ossi. Pour le porte-parole du SDF, Robert Wafo, il est évident que le président Biya sera candidat à sa propre succession.
Dans un pays qui se respecte et qui se veut démocratique, que le président de la République, qui sera par ailleurs candidat à sa propre succession, soit contrairement à ce qu'on a le détenteur exclusif de la date de convocation du corps électoral. Dans d'autres pays qui se respectent, où la démocratie est ancrée, la date d'élection présidentielle est connue au minimum 12 mois à l'avance.
C'est le silence au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC au pouvoir, sur une éventuelle candidature du président Biya. Hervé Emmanuel comme Card préfère souligner la légalité du décret.
Je ne suis pas surpris, parce que l'État est un légaliste, un républicain. Il le fait dans le cadre de la loi, à respecter les délais. Et il a bien fait de convoquer cette élection présidentielle qui va être un grand moment de vérité républicaine parce que le peuple souverain choisira démocratiquement et dans le cadre de la loi de la République le destin qu'il veut, qui doit être le sien.
Akere Mouna, avocat et ancien vice-président de Transparency International, Maurice Kanto, chef du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et l'homme d'affaires Jean-Blaise Gouette ont annoncé leur candidature. La présidentielle au Cameroun est un scrutin à un seul tour. Même si le président Biya n'a pas encore dit ses intentions, pour Elimbi Lobé, membre de la plateforme de l'opposition, le principal problème réside dans le fait que les potentiels candidats n'ont qu'une dizaine de jours pour déposer leur candidature.
Le corps électoral vient d'être convoqué. Dans 10 jours au plus tard, les candidatures devront être déposées, déclarées. Eh bien, l'opposition n'est pas parvenue à se donner la main, à avoir une candidature de large consensus.
Le conflit armé dans les zones anglophones risque de perturber le scrutin prévu le 7 octobre si, d'ici là, une solution n'est pas trouvée.
Les prisonniers politiques sont toujours incarcérés en Guinée équatoriale, malgré l'amnistie générale décrétée le 4 juillet par le président Teodoro Obiang-Nguema, a affirmé mardi à l'AFP le chef de l'opposition à Malabo, Gabriel Nze Obiang, leader du Parti citoyen pour l'innovation, dissous depuis février. L'opposant a affirmé, je cite, « La loi n'est pas appliquée en Guinée équatoriale, le gouvernement ne la respecte pas. Une trentaine de militants du citoyen pour l'innovation restent emprisonnés à Ivanhoe Yang, dans le centre du pays, et attendent toujours leur libération. 3 ans de prison ont été requis mardi soir par le ministère public à l'encontre de 3 figures majeures de la société civile au Niger, détenues depuis mars après une manifestation interdite, ont annoncé leurs organisations. Au total, 24 prévenus ont comparu mardi pour organisation et participation à une marche interdite et complicité de dégradation de biens publics et privés, selon leur avocat. Tous avaient été arrêtés le 25 mars après des heurts à Niamey entre les forces de l'ordre et des manifestants qui voulaient braver l'interdiction par les autorités d'une manifestation contre la loi de finances 2018 qu'il juge antisocial. Le Conseil de sécurité de l'ONU est appelé à se prononcer en fin de semaine sur l'imposition d'un embargo sur les armes au Soudan du Sud, une proposition américaine qui divise les 15. Le projet de texte américain établit un embargo sur les armes jusqu'au 30 mai 2019 à destination du Soudan du Sud. Il autorise les États-Unis, les États membres de l'ONU à détruire ou neutraliser toute cargaison d'armes interdite en vertu de l'embargo. La Chine a averti mercredi qu'elle serait forcée de prendre des mesures de représailles après les nouvelles menaces de Washington d'imposer des droits de douane punitifs sur 200 milliards de dollars d'exportations chinoises. Dans un communiqué, le ministère chinois du commerce a qualifié les nouvelles menaces américaines de totalement inacceptables et estimé que le comportement irrationnel des États-Unis nuisait à la Chine, au monde et à eux-mêmes. Le président américain Donald Trump rencontrera ce mercredi la chancelière allemande Angela Merkel en marge du sommet de l'OTAN où il a dénoncé avec une extrême virulence les réticences de l'Allemagne à augmenter son budget militaire. Monsieur Trump va rencontrer Madame Merkel à 13h15 GMT, a annoncé Sarah Sanders, la porte-parole de l'exécutif américain. Le locataire de la Maison-Blanche doit par ailleurs rencontrer le président français Emmanuel Macron un peu plus tard dans la journée.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Des raids aériens russes et des combats violents au sol ont secoué aujourd'hui dans le sud de la Syrie une poche que tiennent les djihadistes du groupe État islamique dans la province de Dera, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Une grande partie de la province connaît une accalmie depuis l'annonce vendredi d'un accord conclu entre le régime, son allié russe et les rebelles qui ont accepté de céder aux autorités de Damas les zones qu'ils contrôlaient dans la région. On parle sport maintenant. Angleterre-Croatie, c'est l'affiche de la deuxième demi-finale du mondial russe ce soir à Moscou. Qui des deux rejoindra la France dimanche en finale du mondial 2018? D'un côté l'Angleterre, une vieille sélection amenée par une nouvelle génération, et de l'autre la Croatie, un jeune pays porté par un collectif dans la force de l'âge. Rendez-vous ce soir à 18h GMT. Hier, la France de Didier Deschamps a écrit une nouvelle page de son histoire en sécurisant une place en finale face aux Belges, vaincu 1-0. Jules Valentin Ngoué ausculte la victoire des Bleus.
La France qui sort victorieuse de la finale avant la lettre, l'opposant au voisin belge, c'est le dernier obstacle qui conduit vers l'objectif initial non avoué. Ramener cette Coupe du Monde de Russie et effacer la déception finale de l'Euro 2016. Dans un match serré et tendu où l'enjeu a tué le jeu, l'équipe de France, disciplinée tactiquement en défense, lucide et réaliste en attaque, a trouvé la faille sur un coup de pied de coin bien repris par Umtiti à la 51e minute. Dès lors, le service minimum rempli, les Français qui se retrouvaient dans la configuration tactique qui leur réussit le plus ont su contenir une équipe belge qui n'a pas pu profiter de son temps fort dans la première demi-heure de jeu et a tardivement fait entrer Mertens, plus offensif que Dembélé. Les Belges paient cher le non-respect d'une logique élémentaire. C'est en attaquant qu'une équipe faite pour marquer doit espérer gagner un match capital. Pour l'équipe de France, cette deuxième finale d'affilée, après celle de l'Euro 2016, confirme le statut actuel de la sélection comme puissance incontestable du football mondial et amène la génération qui la constitue au même niveau que celle glorieuse de 1958, 82-86 et 98-2000. À la différence qu'ici, la vedette, c'est le groupe. Mais l'heure n'est pas encore à l'autosatisfaction. Il reste un essai à transformer.
Jules Valentin Ngoué, c'est la fin de ce journal. Bonne chance à la Croatie et à l'Angleterre ce soir à 18h. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.